Le bonheur dans la compassion. Lorsque, comme les hindous, on place le but de toute activité intellectuelle dans la connaissance de la misère humaine, et lorsque, à travers plusieurs générations, on demeure fidèle à cet épouvantable précepte, la compassion finit par avoir aux yeux de tels hommes du pessimisme héréditaire. Une valeur nouvelle en tant que valeur conservatrice de la vie, qui aide à supporter l'existence, bien qu'elle paraisse digne d'être rejetée, avec dégoût et effroi. La compassion devient l'antidote du suicide, étant un sentiment qui contient de la joie et qui procure le goût de la supériorité à petite dose. Elle détourne de nous-mêmes, fait déborder le cœur, chasse la crainte et l'engourdissement, incite aux paroles, aux plaintes et aux actions. Elle est un bonheur relatif si on la compare à la misère de la connaissance qui met, de tous les côtés, l'individu à l'étroit, le pousse dans l'obscurité et lui enlève l'haleine. Le bonheur, cependant, quel qu'il soit, donne de l'air, de la lumière et de libre mouvement. Pourquoi doubler le moi? Regardez les événements de notre propre vie avec les mêmes yeux dont nous regardons les événements de la vie d'un autre. Cela tranquillise beaucoup et est une médecine convenable. Regardez et accueillir par contre les événements de la vie des autres comme s'ils étaient les nôtres, la revendication d'une philosophie de la pitié, cela nous ruinerait à fond en très peu de temps. Que l'on en fasse donc l'expérience sans divaguer plus longtemps. Cette première maxime est en outre certainement plus conforme à la raison et à la bonne volonté raisonnable. Car nous jugeons plus objectivement de la valeur et du sens d'un événement lorsqu'il se présente chez les autres et non pas chez nous. Par exemple, de la valeur d'un décès, d'une perte d'argent, d'une calomnie. La pitié comme principe de l'action avec ce commandement souffre du mal de l'autre autant qu'il en souffre lui-même. Amènerait par contre forcément le point de vue du moi, avec son exagération et ses déviations, à devenir aussi le point de vue de l'autre, du compatissant, en sorte que nous aurions à souffrir en même temps de notre moi et du moi de l'autre, et que nous nous accablerions ainsi volontairement d'une double déraison au lieu de rendre le poids de la nôtre aussi léger que possible. Devenir plus tendre. Lorsque nous aimons, vénérons et admirons quelqu'un, et que nous nous apercevons après coup qu'il souffre, et c'est toujours avec beaucoup d'étonnement parce qu'il nous paraît inadmissible que le bonheur qui jaillit de lui sur nous ne parte pas d'une source de bonheur personnel. Notre sentiment d'amour, de vénération et d'admiration se transforme dans son essence. Il devient plus tendre. C'est-à-dire que le gouffre qui nous sépare semble se combler, un rapprochement d'égal à égal semble avoir lieu. Maintenant, il nous semble possible de lui donner en retour, tandis que nous nous le figurions autrefois supérieur à notre reconnaissance. Cette faculté de donner en retour nous émeut et nous cause un grand plaisir. Nous cherchons à deviner ce qui peut calmer la douleur de notre ami, et nous le lui donnons. Il veut des paroles, des regards, des attentions, des services, des présents consolants. Nous les lui donnons. Mais avant tout, s'il nous veut souffrant à l'aspect de sa souffrance, nous nous donnons pour souffrant. Car tout cela nous procure avant tout les délices de la reconnaissance active. Ce équivaut en un mot à la bonne vengeance. S'il ne veut rien accepter et n'accepte rien de nous, nous nous en allons refroidis et tristes, presque blessés. C'est comme si l'on rejetait notre reconnaissance. Et sur ce point d'honneur, le meilleur homme est chatouilleux. De tout cela, il faut conclure que même au meilleur cas, il y a quelque chose d'abaissant dans la souffrance et dans la compassion quelque chose qui élève et donne de la supériorité. Ce qui sépare éternellement, l'un de l'autre, les deux sentiments.